Eh bien, bonjour à tous. Vous allez bien? Oui, super. Eh bien, oui, pour le 16 octobre, on se dirait, je sais pas, mois d'août, hein, il fait 29 degrés. C'est magnifique. On voit la piscine cet après-midi. On va ouvrir nos Bibles dans Proverbe 29, 18. Je vais vous lire dans la version de la version seconde, puis après on va regarder ce que disent d'autres versions. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Vendredi soir, je vous parlais des moutons, vous vous rappelez. Je ne sais pas si ça a plu à tout le monde, mais voilà. Les moutons qui sont forts par le fait d'être en troupeau, d'être ensemble. Ils ont une force de vie collective. Et le troupeau de moutons de Jésus a un bon berger. Voilà. Il ne suffit pas d'être un mouton, encore faut-il avoir un bon berger. Et puis aussi un chien qui les protège des prédateurs. Parce qu'il y a des prédateurs, des fois le berger, il ne voit pas, mais le chien. Il se met à aboyer tout de suite. Je dis pas que Jésus voit pas tout, mais il se fait seconder. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'appauvrissement de la pensée collective. Puisque je vous ai vanté la force collective, eh bien, je voudrais vous parler de l'appauvrissement de la pensée collective et du pourquoi de cet appauvrissement de nos jours. Alors, savez-vous que je ne l'ai pas trouvé tout seul sous une frite. Je lis pas mal et j'ai appris que jusqu'en 1975, le QI moyen de la population mondiale ne faisait qu'augmenter. C'est bien. Et puis en 1975, ça s'est stabilisé. Et puis, à partir de 1990, il a amorcé une descente. Mais alors une descente, on compte une baisse moyenne de 2,4 points de QI au niveau mondial en 10 ans. C'est pas rien. Maintenant, sachant que le QI est bien descendu, sans vouloir vexer personne, je me sens poussé à vous expliquer ce que c'est qu'un QI, parce qu'il y en a d'autres qui ne savent pas. Je me moque pas, hein, c'est juste pour être précis. Le QI, ça signifie quotient intellectuel. La moyenne normale, elle est de 90 à 109, à peu près. Le quotient intellectuel, il est mesuré par des tests. On peut faire ça avec Internet. Hein, vous tapez test quotient intellectuel et puis vous saurez quel est votre quotient intellectuel avec des tests. Alors, c'est des tests du rapport de l'âge mental à l'âge réel. Et ce test, il a pour but de donner une indication chiffrée de l'intelligence d'une personne vis-à-vis de son groupe d'âge. C'est normal, hein, c'est normal. On n'a pas. Non, il est censé. Normalement, on disait toujours quand on vient vieux, on devient sage. Ben, je sais pas trop, hein. Enfin, on verra. Par exemple, le QI d'Einstein, physicien et théoricien bien connu, il était de 160. Je vous rappelle que le QI normal se trouve entre 90 et 109. Normal, mais il est descendu de 2,4% depuis 10 ans. Alors, il y a des chercheurs qui se sont demandé, mais pourquoi le quotient intellectuel mondial a baissé à ce point en 10 ans? Vous allez me dire, mais Michel, tu nous prêches l'évangile ou tu nous fais un cours de science? Attendez, attendez, attendez. Ça vient. La première raison qu'ils ont trouvée, c'est que des personnes qui ont fait des études font moins d'enfants que les personnes non diplômées. C'est fou, hein? La deuxième raison, c'est l'automatisation qui réduit nos compétences cognitives, c'est-à-dire de la mémoire. Il y a plein de choses qu'on ne sait plus faire. Le calcul mental, qui c'est qui fait encore du calcul mental? Oui, pour des petits chiffres de rien du tout. Mais moi, je me rappelle, à l'école, on faisait du calcul mental. Tous les jours, on avait un quart d'heure de calcul mental. Maintenant, on a nos tablettes, on fait plus de calcul mental. Eh bien, ça, voilà. On ne sait plus coudre, on ne sait plus tricoter, on sait même pas allumer un feu. On sait de moins en moins se servir de nos doigts, à part sur les claviers. C'est vrai, hein, c'est vrai. C'est vrai, il y a beaucoup de gens. Et la sollicitation permanente des écrans, je parlais de clavier, entraîne une difficulté à nous concentrer sur une seule tâche avec précision. On est distrait. Là, pendant que je suis en train de vous parler, vous êtes en train de penser que votre téléphone qui est dans votre pantalon, ben ça continue encore. Il y a l'information qui vient, il y a des gens qui vous écrivent et tout. Peut-être ça peut vous distraire. Donc c'est difficile quand on veut se concentrer sur quelque chose d'important, une chose importante. Eh ben, ça devient de plus en plus difficile parce qu'on est distrait. Alors, ensuite, il vient la pollution. Et la moins bonne qualité de l'éducation, et puis la baisse de lecture chez les jeunes, et en tout dernier, l'appauvrissement du langage. Ils ont dit que ça venait en tout dernier. Je me rappelle d'une bande dessinée où il y avait des personnages qui disaient seulement oncre, oncre. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était dans Pif le chien, je crois. Ancre, ancre. Les scientifiques ont démontré que la disparition progressive de l'usage des temps, par exemple le subjonctif imparfait, les formes composées du futur, des participes passés, tout ça produit une pensée qu'il ne peut pas, qui est incapable de perspective. Moi, je reçois beaucoup de messages sur Internet et je m'aperçois que les gens parlent d'une façon, s'expriment d'une façon. C'est très pauvre, hein? C'est très pauvre. Alors, le mot perspective, il a des synonymes. On peut dire l'angle. On regarde les choses sous un certain angle, on a une perspective. L'aspect. Vous avez des tableaux sans perspective. C'est une forme d'art, mais bon. L'attente, en perspective 2. L'éclairage sur ceci ou sur cela. L'optique, la pensée. La pensée. Point de vue, prévision, vision. Ce qu'on pense possible, tout ça, c'est des synonymes de perspective. Eh bien, le fait de parler n'importe comment nous empêche d'anticiper l'avenir correctement. C'est étonnant, hein? Plus le vocabulaire s'appauvrit, moins on a de vision, moins on est capable d'envisager des projets. Une évolution. Alors, on commence par stagner, on régresse. On végète. Proverbe 29, 18, que je vous lisais tout à l'heure, nous dit: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il y a d'autres versions qui disent pas la même chose, qui disent: quand il n'y a pas de vision. Ce n'est pas n'importe quelle version, c'est la Bible en français courant, c'est la version Darby, c'est la version Martin que j'aime beaucoup, la version Ostervald que j'aime beaucoup aussi, la version de Lausanne évidemment que j'aime beaucoup puisque je suis suisse et je suis né à Lausanne. Non, ce n'est pas à cause de ça que je l'aime bien, mais c'est une bonne version. Toutes ces versions-là, entre autres, disent: lorsqu'il n'y a plus de vision, le peuple vit dans le désordre. C'est curieux, hein? Manque de perspective, manque de vision. Les gens ont un point de vue, une pensée bloquée, un certain éclairage, et ils sont bloqués là-dessus par manque de culture, par manque d'ouverture, par manque de perspective. Vous savez, il n'y a qu'à écouter les gens s'exprimer. Lisez les commentaires sur YouTube, les commentaires sur Facebook, vous allez voir, les gens sont bloqués sur des trucs, mais c'est phénoménal. La Bible nous a avertis depuis des millénaires qu'à la fin des temps, il y aurait deux blocs qui vont s'affronter. Bon, on commence à voir très sérieusement de quoi il s'agit. Hein. Je ne vais pas vous faire des dessins, je ne suis pas là pour vous dire quel est le meilleur bloc. J'ai mon opinion, mais je vous laisse libre de... Je ne veux pas me chicaner avec vous. Mais je voudrais éveiller votre conscience sur le projet de ces blocs, qui sont des blocs totalitaires, les deux. Hein, les deux. Il y en a un, c'est de manière plus ou moins déguisée, puis l'autre, c'est plus visible. En 2020, avant Jésus-Christ... Le premier empereur chinois, il s'appelait, excusez-moi la prononciation s'il y a des Chinois qui m'écoutent, Qin Shi Huangdi. Eh bien, il a voulu que son peuple cesse de penser. Il était un peu parano, il pensait que les gens pensaient que du mal de lui. Donc, c'est étonnant, hein. Et vous avez tous entendu parler de Mao Tse-tung, il est quand même plus près de nous. Et c'était un grand admirateur de Qin Shi Huangdi. Il s'est beaucoup inspiré de cet homme-là qui voulait empêcher les gens de penser. Eh bien, Mao Tse-tung a organisé un truc, il a modifié la langue usuelle pour inventer un chinois simplifié. Les Chinois, aujourd'hui, ne parlent pas le chinois qu'on parlait il y a 60 ans, ou... mais en français aussi, hein, en français aussi. Et ça, c'était sous prétexte que ça soit plus facile pour les Chinois d'apprendre à lire, à écrire. Il y avait un bon prétexte, il y avait une bonne idée, mais la réalité, en fait, c'est juste une langue appauvrie et moins susceptible d'inspirer la révolte, d'exprimer la révolte. Vous voyez, un langage appauvri. En 1984, il y a un écrivain, journaliste anglais du nom de George Orwell, qui dit des choses fantastiques, qui a dit que tous les régimes totalitaires ont toujours souhaité une réduction du vocabulaire pour éviter que s'élabore une pensée contestataire intelligente. C'est fou jusqu'où ça va, hein? Eh bien, voilà une des raisons du chaos dans lequel nous vivons à l'heure actuelle. Je vous parlais des moutons. Ils ne sont pas contestataires parce qu'ils font confiance à leur berger. Et nous, chrétiens, eh bien, gloire à Dieu, nous avons un bon berger, Jésus-Christ. Mais tout le monde, tous les moutons n'ont pas un bon berger. Hein. Il y a des mauvais bergers. Je doute que Mao Tse-tung fût un bon berger. Il est appelé le bon berger, mais il est aussi appelé la parole. La parole. Et sa parole, elle instruit, elle reprend, elle corrige, elle encourage, elle guide dans la lumière. Et ceux qui cherchent à appauvrir la parole sont des mercenaires qui veulent conduire le peuple dans un ravin. Dans un ravin. Les gens croient que leur opinion est la bonne alors qu'ils suivent un mercenaire sans trop se poser de questions. Voilà. Ils sont des moutons, oui, mais des moutons de Panurge. Parce qu'il faut quand même qu'on en parle des moutons de Panurge, c'est quoi? Vous connaissez Rabelais? Vous avez lu Rabelais? Oh, c'est délicieux. Rabelais. Panurge, c'était un personnage méchant qui est ami d'un géant qui s'appelle Pantagruel. Et Panurge sait que les moutons vont suivre toujours le chef. Alors il trouve parmi les moutons un mouton un peu plus débrouillard. Et puis il le jette à l'eau. Et alors tous les autres moutons, eh ben, se jettent à l'eau. les moutons de Panurge n'étaient pas stupides, mais simplement, Panurge était méchant, il n'était pas le bon berger. Et il s'est arrangé pour que les moutons périssent. Jésus n'est pas Panurge. Et c'est pas parce qu'on a un mouton qu'on a un mouton de Panurge, on a un mouton de Jésus. Je suis un mouton de Jésus. C'est pourquoi, dans ma dernière prédication, je disais, je suis fier d'être un mouton. C'est un titre accrocheur parce que les gens, bon, fier d'être un mouton. Oui, mais de Jésus. Jésus est bon. Il n'est pas méchant. Hein? Panurge, c'était pas gentil du tout. Et Jésus ne va pas nous jeter à la mer. Il lui est arrivé de jeter à la mer, c'était des cochons. C'est pas ses brebis, c'était des cochons qui habitaient dans un personnage qui était possédé. C'était des esprits impurs. Tant que vous lisez les mots de Jésus, tant que vous vous cultivez, tant que vous cultivez votre âme avec la parole de Dieu écrite, vous n'êtes pas en danger et vous avez la bonne vision. Et ceux qui n'ont pas de vision, ou ceux qui ont une mauvaise vision, ben, ils tombent dans l'eau. Ils se noient, ils périssent. Vous me dire c'est dur, oui, mais ça fait des années que je vous dis qu'il faut que vous lisiez la Bible et que vous en fassiez votre nourriture tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a des raisons. Il y a des raisons. Si vous observez les sectes, il n'y a pas si longtemps, dans une célèbre secte, eh bien, tout était dit en latin. Toujours, il y a un de mes amis qui est très cultivé, qui m'a pu en discuter, puis il m'a écrit un mot en latin. J'ai dû aller voir sur Internet qu'est-ce que ça signifiait, parce que moi, le latin, c'est pas... Pourquoi est-ce que cette célèbre secte s'exprimait comme ça? Eh bien, pour maintenir le peuple dans l'ignorance, dans l'asservissement, pour que les gens ne comprennent rien et suivent bêtement. Voilà. Et ils ont suivi bêtement et voilà. Puis maintenant, ils se plaignent. Dans une autre secte, très connue aussi, on force les enfants à apprendre par cœur un livre bourré d'incohérences. On leur demande pas de le comprendre, mais juste de le mémoriser. Vous voyez de qui je veux parler? Alors bon, on est horrifié par les 6 millions de juifs qui ont été assassinés par Adolphe. C'est épouvantable. C'est démoniaque. Mais est-ce que vous êtes horrifié devant les 670 millions de non-musulmans massacrés depuis la naissance de l'islam? 670 millions. Mais qui le sait? Religion de paix. Et dernièrement, ils ont assassiné 480 000 personnes en Syrie, 80 millions de chrétiens massacrés dans les Balkans, en Hongrie, en Ukraine, en Russie, et au Burkina, nous savons très bien ce qui se passe, puisque ils massacrent à tour de bras là-bas, et les femmes et les enfants qui arrivent à s'échapper. Justement, on a monté un château d'eau pour qu'elles puissent faire du maraîchage. On fait tout ce qu'on peut grâce aux donateurs. Mais voilà, c'est parce que c'est fou de religion, cette secte démoniaque, mauvaise, méchante, avec un mauvais berger, tue, égorge. Ils arrivent le matin de bonne heure et ils égorgent les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde. Religion de paix. Alors, plus vous apprenez le vocabulaire, plus vous appauvrissez le vocabulaire des gens, moins ils comprennent ce qu'ils lisent et plus le totalitarisme fleurit. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors nous, chrétiens, ne baissons pas les bras. Nous connaissons notre bon berger et nous n'en suivrons jamais un autre. Jamais. Jésus est à la porte. Il revient et il va prendre le pouvoir. Ça, c'est notre grande joie. Ce sera un jour grand pour nous et redoutable pour les autres. C'est ce que le prophète Malachi dit. Alors, réjouissons-nous de cela et en attendant, ne perdons pas pied, faisons attention, cultivons-nous, lisons. Là, sur Facebook, j'ai trouvé, il y a des prédications entières d'hommes de Dieu comme Wigglesworth, comme des hommes et des femmes de Dieu extraordinaires. C'est merveilleux de lire ces choses-là, c'est instructif, on apprend des choses. Il y a aussi toutes sortes de livres qu'on peut lire qui sont instructifs, qui disent des choses qui sont justes, qui sont bien, qui sont constructives. Mais la meilleure parole, les meilleurs mots, ce sont ceux de Jésus. Alors veillez à cela. Et puis tant pis pour ceux qui s'obstinent à suivre de mauvais bergers. Tant pis pour eux. Ils s'obstinent. Eh ben, qu'ils continuent. Si vous voulez faire, vous voulez essayer de les convaincre, on peut leur parler, oui, c'est gentiment, on peut leur parler, mais s'ils s'obstinent, ben basta, quoi. Il y a un petit proverbe français qui dit « qui se ressemble, s'assemble ». Ben voilà. C'est pas gentil ce que je dis là, si, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Vous savez, un temps, je souffrais, je disais « mais c'est pas possible, ces gens... comme les témoins de Jéhovah sont zélés, ils viennent aux portes, ils font un boulot terrible, ils sont zélés. C'est dommage qu'ils croient de telles stupidités. Ça me faisait mal au cœur, ça me travaillait, je priais pour eux. Chaque fois qu'ils venaient, je les recevais gentiment, je m'efforçais de leur expliquer. Et puis un jour, le Seigneur m'a dit, mais on ne trouve que ce qu'on cherche. Ils ont trouvé ça, c'est parce qu'ils cherchaient ça. Point barre. Et ben depuis, je m'en occupe plus, qu'ils se débrouillent d'ailleurs. Et puis, ils viennent plus. Hein. On cherche et on trouve. Jésus dit, celui qui cherche, il trouve. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans votre vie? Ben, c'est ce que vous cherchiez. Alors, ne vous plaignez pas. Il y a des choses comme ça dans la vie. Ce qu'on sème, on le récolte, etc., etc. Tout ça, ce sont des paroles de Jésus, c'est vrai. Donc, faites bien attention à ce que vous voulez, à ce que vous cherchez, et puis vous ne serez pas trompés. Jésus est le bon berger. Alors, les chrétiens répètent sans cesse, « L'Éternel est mon berger, ton bâton et ta houlette me rassurent. » Je me rappelle, chez les gitans, ils disaient, « Ton bâton et ta roulette me rassurent. » Ça me faisait rigoler, parce que la roulette de Jésus, qu'est-ce que ça peut être une roulette? La roulette de Jésus. Le bâton, c'est pour frapper. De temps en temps, le berger nous fiche des petits coups comme ça. Et la houlette, c'est... Vous savez, les rois ont souvent ça dans les mains, un sceptre avec un... C'est un bâton avec un... Comment on appelle ça? Comme un crochet, quoi. Et bien, c'est ça, une croche, voilà. Eh bien, merci Marie-Claire. Eh bien, c'est ça. La houlette de Jésus, c'est ça. C'était un bâton avec une crosse au bout. Et si il voyait une brebis qui s'éloignait du troupeau, eh ben, il l'attrapait par la jambe, hop, puis il lui faisait un croche-patte. ben, évidemment, la brebis, elle n'aimait peut-être pas ça forcément, parce que ça la faisait trébucher, mais c'était pour son bien. Alors, soyez sages, répondez bien aux injonctions du Saint-Esprit, ne faites pas les ignorants, et si vous êtes ignorants, eh bien, cultivez-vous. Faites attention, le fait d'appauvrir le langage vous rend incapable d'avoir une bonne perspective, une bonne vision, et quand il n'y a pas une bonne vision, eh bien, c'est le désordre, c'est ce que Jésus dit. Alors, par manque de vision, mon peuple périt, par manque de connaissance, mon peuple périt, il faut que vous connaissiez les Saintes Écritures, appliquez-vous à les lire, à les méditer, à en parler entre vous, en famille, dans l'Église. Il faut absolument c'est une nourriture. Et remarquez combien de fois on parle de nourriture dans la journée. D'abord, on va faire les courses. Ça prend du temps. Ensuite, on épluche les patates, on passe des heures pour faire la nourriture. Après, il faut mettre la table, hein. C'est Dominique chez nous qui met la table. Alors, on met la table. Et puis il y a toujours quelqu'un qui dit, moi souvent je dis ça, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Et puis alors, on arrive à table, oh, ben moi j'aime pas ça, ben moi j'aime pas ça, moi j'aime pas les lentilles, par exemple. Tout le monde sait que j'aime pas les lentilles, mais c'est pas que c'est mauvais, mais je sais pas, j'ai un a priori, les lentilles c'est pour Ésaü, donc point final. C'est un peu bête ce que je dis là, mais c'est vrai. On parle beaucoup de nourriture. Les Américains disent que les Français, quand ils sont au restaurant, à la place d'apprécier ce qu'ils sont en train de manger, ils se parlent de ce qu'ils ont mangé dans le restaurant la semaine d'avant. C'est une façon de faire. Eh bien, soyons contents de ce que nous avons, et puis la nourriture, ce que nous trouvons dans la Bible, c'est une bonne nourriture, et il faut en manger tous les jours. On mange tous les jours, hein. Puis, c'est pas, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on mange? On va pas inventer. Le gloubi-boulga, ça n'existe pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Des patates, des pâtes, du riz, du poisson, de la viande, voilà, puis on retourne, puis on recommence. Mais la Bible, vous allez me dire, mais comment ça se fait? Ça fait depuis 1968 que tu lis ce bouquin, oui, mais j'y trouve toujours quelque chose. Et puis, même si je trouve rien un jour, c'est pas grave, c'est quand même une nourriture, ça va là où ça doit aller, et ça me fait du bien, ça me fortifie, et quand j'en ai besoin, ça réapparaît, et je me trouve bien. Protéger, garder. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à bien comprendre toutes ces choses. Rappelez-vous, l'appauvrissement du langage est organisé par les gens haut placés pour vous asservir. Faites attention avec des oncres et compagnie. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.